Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poiret sur RTL.
9h38.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Dans cet ordre-là, s'il vous plaît, ce samedi, Laetitia, Thierry, Sébastien et Glantine. Bonjour.
Bonjour Bernard. Bonjour.
Garde à vous.
Laetitia Nallet, pour les fans de décoration et d'architecture, dont vous êtes le chef de file, comme chacun sait, vous avez une idée de balade parisienne.
Oui, je vous propose de visiter l'appartement atelier du célèbre architecte Le Corbusier, dans lequel il a vécu de 1934 jusqu'à sa mort.
Il a vécu dans plein d'endroits. Il avait un cabanon.
Aussi, le cabanon à la fin, bien sûr. Mais ça, c'était vraiment son habitation principale. C'est à Paris, dans le 16e arrondissement. Et l'appartement est perché en haut d'un immeuble, l'immeuble Molitor, que Le Corbusier a construit avec son cousin et collaborateur Pierre Jeanneret entre 31 et 34.
Et c'est en bâtissant cet immeuble qu'il s'est dit « je vais habiter sur les toits ».
Exactement.
Et d'ailleurs, il y a encore plein de promoteurs aujourd'hui qui se réservent le dernier étage comme
son directrice.
Et lui s'est fait un penthouse avant l'heure. C'est un duplex au 7e et 8e étage, dans lequel il a expérimenté évidemment ses grandes idées architecturales. C'est-à-dire du béton, d'immenses pans vitrés coulissants, un plan libre et traversant et un toit jardin. On arrive dans une petite entrée avec de chaque côté de grandes parois pivotantes.
Oui.
Parce qu'une porte chez Le Corbusier, c'est pas 90 cm de large.
C'est massif,
mais c'est une cloison, c'est énorme. Oui, voilà. Oui. D'un côté, vous allez trouver la partie travail avec son atelier qui est super grand avec un toit voûté. Et de l'autre, il y a la partie à vivre.
Je suis sûre qu'il y a plein d'idées déco sympas.
Alors, il y a surtout beaucoup d'astuces. Dans le salon, par exemple, il y avait la machinerie de la de l'immeuble.
C'est
super moche, c'est impossible
ça
à déplacer.
Surtout,
donc il l'a isolé, insonorisé, puis après, c'est dans le salon, quoi. Il l'a recouverte d'un gros cube de bois.
Ouais.
Et ça, c'est à la fois un meuble et une estrade qui finalement devient un élément qui structure l'espace.
Ouais.
Et dans la chambre, le lit, lui, il est très haut, il est surélevé à 1m20.
Ah, c'est pas pour moi, ça arrive. Il faut un escabeau au moins.
Et en fait, il y a une raison, c'est qu'il voulait dans son lit pouvoir profiter de la vue sans être gêné par la rambarde de la terrasse. Donc, hop, il a surélevé le lit. Dans la salle à manger, sous la table, il y a un tapis rouge en laine avec des trous dans lesquels disparaissaient les quatre pieds de la table. Pourquoi il a fait ça? Pour donner l'impression que la table sortait du sol. Vous découvrirez la cuisine en zinc, le toit terrasse avec sa chatière, des matériaux simples et abordables et la polychromie ou comment l'utilisation des couleurs permet de dessiner l'espace.
À vous voir ricaner, là je pense que ça vous a plu.
Ah non mais moi j'adore. Cet appartement vient juste d'être restauré en respectant vraiment les choix de Le Corbusier. C'est un travail énorme que l'on doit à la fondation Le Corbusier et à l'agence François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques.
Oui,
Bernard, je vous conseille vraiment d'aller le visiter. Il est à nouveau ouvert au public.
Mais il faut réserver sur le site Fondation Le Corbusier, tout attaché en minuscules. .fr. Très bonne idée de balade en tout cas. Merci beaucoup Laetitia. Thierry Denis, la semaine dernière, le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris vous a donné une noix de coco.
Fruit énorme qui fait glou-glou quand je le secoue, car il y a encore plein d'eau de coco. J'en reviens pas. Alors Églantine et les autres, ne vous moquez pas des mois. Surtout vous Églantine qui avez passé votre enfance sous les tropiques,
c'est vrai,
les cocotiers.
Oui, moi j'ai grandi en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie.
Je savais pas.
Les cocotiers n'ont vraiment pas de secret pour vous.
Oui.
Mais dans mon Morvan, les cocos, ça ne court pas vraiment les jardins.
Bon, on en trouve quand même dans toutes les grandes surfaces aujourd'hui, Thierry.
Oui, les noix, mais épluchées et dures comme du bois.
Tous mes copains à l'école pensaient que ça ressemblait à ça.
C'est que le noyau, en fait. Moi, ce qu'on m'a donné, c'est le vrai fruit complet, avec sa bourre épaisse. C'est 4 fois plus gros, puis c'est rempli de jus.
Elle vient de Paris, d'accord, mais en fait, elle vient d'où vraiment cette noix?
Elle vient vraiment de Paris.
C'est pas vrai.
Car elle a été récoltée Avenue Daumesnil, Paris 12e, dans l'insert colossal du parc zoologique de Paris, qui dépend bien sûr du muséum. 2 fois la surface d'un terrain de football. Une serre ultra moderne qui abrite la faune et la flore de Guyane et de Madagascar.
Et c'est une serre ouverte au public comme
Oui, elle est au beau milieu de ce zoo fabuleux qui respecte la vie des animaux, ça c'est important. Allez-y, visitez la serre et le zoo. Aujourd'hui et demain, en plus, c'est un week-end spécial girafe.
Ça semble être un de vos animaux préférés.
Moi, j'ai déjà craqué devant les mangoustes qui m'ont rappelé Rikki Tikki Tavi du livre de la jungle d'Ibline.
Bien sûr, qui se bat contre le serpent.
Exactement.
Absolument.
Dans la serre, je suis vraiment allé de bonheur en bonheur. Mon premier paresseux, en liberté dans la serre.
Ah oui.
Un arbre à pin, moi c'est la première fois que je vois ça. Un lamantin langoureux dans son bassin. Et une flopée d'oiseaux exotiques qui sont en liberté dans la serre et qui vous passent au ras de vos cheveux. Tout près des cocotiers.
C'est génial votre histoire. Thierry, juste une question. La grosse bourre, comme vous l'appelez là, qui entoure la noix de coco, elle sert à quoi en fait?
Eh bien, on m'a expliqué que c'était avant tout un blindage à peu près indestructible tant que la graine n'a pas germé.
Nous, quand on était petits, en fait, on montait dans les cocotiers, on allait les prendre et il fallait mettre une grosse pierre entre nos pieds et là, on fracassait. C'était très dur. Il fallait bien tirer cette grosse bourre, comme vous l'appelez, atteindre la noix.
Ce n'est pas utilisable. Il faut l'enlever.
Il faut l'enlever complètement. Oui.
Et au fond des choses, il y a aussi le centre de la noix de coco. Oui. Et ça, c'est plein de flotte, non ?
C'est plein de flotte et c'est ce qu'on appelle l'eau de coco, qui n'a rien à voir avec le lait. Cette enveloppe, elle est plus légère que l'eau. Et elle joue le rôle de flotteur. La noix tombe sur la plage, la mer l'emporte pendant des mois et l'abandonne sur d'autres rivages, d'autres continents. Et là, enfin, elle germe.
Je pense que vous allez prendre un abonnement là-bas au parc biologique de Paris.
Non, mais ça donne envie d'y aller.
Combien ? Non, mais je crois que c'est vraiment bien.
20 euros, mais honnêtement, ça les vaut. J'ai pris un billet à l'année.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui et demain, c'est le week-end spécial girafe au parc zoologique et des cocotiers. C'est tout le temps, forcément, puisqu'ils ne sont pas mobiles. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un instant avec les cerises de Sébastien. Et puis nous partons à Saint-Uze avec la divine Églantine Émeillée. Je ne sais absolument pas où est Saint-Uze, mais j'adore la géographie, comme vous le savez.
Maison Jardin Cuisine Brocante sur RTL.
9h47.
La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante avec vous, Sébastien Demorand. Mais alors attention, il faut peut-être se dépêcher un petit peu, Sébastien, parce que les cerises, bientôt, il n'y en aura plus, ce sera la fin.
On a
encore
commencé.
Un peu de marge quand même.
Les merles ont bouffé les miennes.
Alors, oui, mais moi, c'est la pluie, j'ai plus rien.
Ça arrive, c'est comme ça. Bon, il reste quelques semaines, ça va, on va rester calme. Sur les marchés, il y en a encore plein partout, Bernard.
Plein.
Bon, c'est vrai, c'est l'occasion ou jamais, maintenant, en profiter cette mi-juin. Et on va évidemment se lancer en cuisine avec une recette d'une modernité folle. Un classique absolument indémodable.
Le clafoutis des familles.
Thierry, vous avez vu comment il est content, Thierry.
Mais il fait des desserts en ce moment, Sébastien. C'est vrai, c'est bizarre.
C'est pas un dessert, c'est à portée de tout le monde. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui refuse une part de clafoutis ?
Moi,
non.
Sincèrement, vous ?
J'aime pas ça.
Mais non, je ne peux pas le croire.
Même avec les cerises des noyaux.
Mais en fait, les cerises, je ne les aime que nature.
Oh là là, n'exagérez pas. On a tous des souvenirs d'enfance autour de ce merveilleux gâteau moelleux comme tout.
Il n'y avait pas ça en Guadeloupe.
Alors, je vais être très honnête avec vous, Églantine. Moi, j'ai aucun souvenir de mes grands-mères me faisant du clafoutis.
Noyau
alors,
ou pas ?
Cela dit, alors ouais, ça c'est un vrai débat de fond très français, Bernard. J'aime beaucoup.
Oui. Noyau ou pas ?
Alors, vous lancez ce débat à table, là, au moment du dessert, c'est le carnage. Hein. Alors que les choses soient claires, je vais vous donner la seule réponse qui vaille, c'est-à-dire la mienne. Oui,
on garde les noyaux, sinon ça fait de la flotte.
Pourquoi ? Parce que ça évite aux fruits de se déliter.
Oui, vous nous aviez dit ça.
Et on les recrache discrétos.
Attention Sébastien, ma mère était la reine du clafoutis. Votre recette, je vais la surveiller. D'après vous d'abord, combien de cerises pour un honnête clafoutis généreux comme on les aime dans mon Morvan ?
Dans le Morvan, allez, on dit 6 personnes à table ce midi.
6 kilos de cerises.
Non, pas du tout. Une livre pour 6 personnes, ça va. À peine rincé, délicatement séché. Et là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment démarrer l'appareil à clafoutis, 1/4 litre de lait, 50 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 125 g de sucre roux, une petite pincée de sel, 4 beaux œufs de la ferme, les graines d'une gousse de vanille et 50 g de beurre fondu. Tout ça mis tel quel dans le robot, mixé comme il faut. On obtient une préparation qui est très fluide, qu'on verse dans le plat. Les cerises, pof, on les met dedans à barboter. On enfourne, on laisse cuire à peu près 3 quarts d'heure, le temps que ça dort. Et ça se déguste sous le cerisier à la fraîche.
Et la température du four, quand même, il faut le préciser.
Ah, Bernard, très important, vous avez raison. Alors, démarrage à 210, c'est-à-dire thermostat 7.
Pour saisir un petit peu.
Voilà, exactement, pendant une dizaine de minutes à peu près, Thierry. Puis 180, c'est-à-dire thermostat 6, pendant une trentaine de minutes. Surveillez de toute façon la cuisson. Hein. Vous mettez une pique dans le clafoutis. Si ça ressort encore très liquide, comme ça, très humide, poursuivez un tout petit peu la cuisson. Et naturellement, vous le laissez tiédir. Et après,
hors du four. Dites donc, Églantine, c'est un véritable tour de France des brocantes que vous nous proposez en ce moment. On est allé déjà dans pas mal d'endroits. Et aujourd'hui, nous partons dans la Drôme, c'est bien ça.
Et
je
vous
disais tout à l'heure que Saint-Uze, je ne sais pas où c'est.
Bah c'est dans la Drôme. Mais c'est vrai qu'on a des régions qui ont des savoir-faire formidables, notamment à Saint-Uze, donc, avec ces fameuses céramiques. Quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez vous souvenir de cette marque.
Ah bon ?
Depuis plus de 220 ans, cette ville, qui est donc à une quarantaine de kilomètres au nord de Valence, c'est un des hauts lieux de production de cette industrie. Mmh. Et c'est donc tout naturellement qu'elle organise aujourd'hui et demain le week-end de la céramique et des arts de la table.
Oh.
Une brocante de professionnels, mais aussi un marché de potiers et plein d'animations.
C'est c'est bien, c'est pour moi ça, avec des plats superbes pour mes petits plats. Là,
il y aura de tout en grès, faïence, porcelaine, ragoût. Ouais. Tout ça, ce sont quelques-unes des techniques à redécouvrir. C'est une parfaite alliance entre la créativité de l'homme, la maîtrise du feu, un savant mélange des matières premières. Et c'est vrai, Sébastien, que je trouve cette magie encore plus forte quand elle se met au service de nos papilles, en mettant nos menus en valeur. Alors vous allez trouver des assiettes, des bols, des mugs, des tasses, des bouteilles, des carafes, des pichets, des plats, des saladiers. C'est juste une petite partie de ce que vous pourrez chiner ce week-end.
C'est chouette ça.
Et ce n'est pas un hasard si cette brocante vous accueille dans les salles du domaine Révol.
Révol, c'est une grande marque de porcelaine française.
C'est tout à fait exact, Laetitia. Et c'est aussi une de nos plus anciennes entreprises nationales, puisqu'elle a été fondée en 1768 à Saint-Uze. C'est dire qu'on retrouve beaucoup de ses créations sur les brocantes. Et je vais vous en citer une que forcément vous connaissez. L'emblématique pichet à eau jaune d'un célèbre pastis.
C'est Revol.
À la fin des années 30. Ce pichet a évidemment participé à la célébrité de cette boisson alcoolisée. Aujourd'hui, les pichets les plus anciens peuvent dépasser la centaine d'euros.
Mais bon, il n'y a peut-être pas que du Revol, un peu de Sarreguemines comme d'habitude.
Il y aura du Sarreguemines, il y a les faïences de Limoges, il y a du Longwy, il y en a plein d'autres qui feront partie de la fête ce week-end.
Est-ce qu'il y a aussi des vases pour mes bouquets?
Évidemment qu'il y aura des vases. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous conter l'étonnante histoire d'un vase chinois qui a été apporté chez Sotheby's il y a quelques semaines.
Oh oui, tant Eglantine,
en vue de l'expertiser. Donc un vase qui devait être expertisé pour une vente aux enchères et qui avait séjourné auparavant une centaine d'années au fin fond d'un grenier poussiéreux qui était parfaitement conservé. Eh bien, ce vase impérial chinois, dont il n'existe que deux paires, a été évalué à 10 millions d'euros.
Mais non. Mais pourquoi j'ai pas ça, moi, dans les greniers?
Attendez, qui dit évalué ne dit pas toujours prix final. Si le vase que vous avez dans votre cave, là, ou dans votre grenier, est estimé pour pas grand-chose, tout n'est pas perdu. L'année dernière, autre anecdote, en Angleterre, à Birmingham, un autre vase chinois avait été estimé à 2000 euros par les experts de la maison de vente. Eh bien, finalement, il a été vendu aux enchères, plus de 900 000 euros.
Oh non, c'est génial.
Après une bataille acharnée entre deux acheteurs qui avaient reconnu un authentique vase en porcelaine de la dynastie Ming datant du milieu du XVIe siècle. Voilà, on a des surprises comme ça, c'est magique. Je vous rappelle donc que le week-end de la céramique et des arts de la table, c'est à Saint-Uze,
dans la
16-17 juin, donc de 9h à 18h.
16 et 17, c'est-à-dire aujourd'hui. Exactement. Et demain, 9h, 18h, c'est bien noté. J'ai bien noté aussi que, sauf incident de parcours, vous êtes là demain. Hein.
Normalement, oui.
D'accord.
Alors, évidemment, on a les retours dans la Drôme et je reviens.
Sans faute, à demain.
À demain.